Bonjour et bienvenue, on se plonge aujourd'hui dans l'ODJ Image, le numéro 48 de septembre 2025. Et en le parcourant, il y a un truc qui saute aux yeux, l'intelligence artificielle. Elle est partout.
Ah oui, absolument. Santé, stratégie de l'État, même l'avenir de l'influence digitale, c'est vraiment le fil rouge du Maroc d'aujourd'hui tel que dépeint ici.
Exactement. Et ce magazine web, donc une publication du groupe Arisala, nous donne une mosaïque assez riche des dynamiques, des débats, des innovations au Maroc.
Tout à fait. Notre objectif là, c'est d'en extraire l'essentiel, les infos clés, les points de vue importants, peut-être quelques surprises pour qui veut comprendre vite et bien les enjeux actuels.
Parfait. Alors allons-y. Ce fil rouge, l'IA. On commence par ça. L'analyse d'Azad-Din Benani, elle est intéressante parce qu'elle remet un peu les choses en perspective.
Oui, il dit que l'IA en santé, c'est pas une révolution sortie de nulle part. C'est plutôt la suite logique de la numérisation qu'on voit dans les hôpitaux depuis les années 80. Quoi.
Une continuité, donc.
Exactement. Il rappelle même que ses propres études, ça remonte aux années 2000, montraient déjà que les soignants, les patients, ils acceptaient les technologies. Mais à deux conditions.
Lesquelles ?
L'utilité perçue, bien sûr, et surtout la confiance. Et ces questions-là, elles restent centrales aujourd'hui avec l'IA. La confiance, la sécurité des données, et comment on garde l'humain au cœur de la relation médecin-patient. C'est pas nouveau comme débat, loin de là.
Et concrètement, au Maroc, qu'est-ce que le magazine met en avant comme application ?
En santé, j'ai vu pas mal d'exemples.
Ce qui est énorme !
Oui. Et puis, il y a le renforcement de la télémédecine. Ça, c'est clé pour réduire les inégalités d'accès aux soins entre, disons, les grandes villes et les régions plus isolées.
Logique.
On a aussi le suivi à domicile pour les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, grâce aux objets connectés et à l'IA qui analyse les données, et même l'IA comme outil pour anticiper les épidémies, aider la décision publique, le big data au service de la santé publique, en quelque sorte.
Un cas qui m'a semblé particulièrement fort, c'est celui de la maladie de Charcot, l'ASLA. L'article détaille vraiment comment l'IA pourrait changer la vie des patients.
Oui. Très concret. Ça va de la communication améliorée, avec des interfaces adaptées en Darija, en Amazigh.
Ce qui est important pour l'accessibilité.
Fondamental. Jusqu'aux interfaces cerveau-machine, les fameuses BCI. Contrôler des appareils par la pensée, imaginez. Le magazine évoque même des pistes via l'open source, des clusters de recherche marocains comme Medinia.
C'est fou le potentiel.
Immense. Ça inclut la domotique, pour que le patient contrôle son environnement, et même un soutien psychologique avec des agents conversationnels, des jeux. Mais, et c'est ça le point clé de l'article.
Oui.
Toutes ces technos, elles servent à rien s'il n'y a pas un écosystème autour. Des partenariats publics-privés, un financement clair État-mutuel, et surtout la formation. Formation des soignants, des aidants. Sans ça, l'innovation, elle reste dans les labos.
C'est tout un système à mettre en place, en fait.
C'est exactement ça.
Toujours dans la santé, il y a une autre perspective assez incroyable, l'IA en cancérologie, qui pourrait éviter la chimio à certaines femmes de plus de 65 ans avec un cancer du sein.
Oui, la cancérologie personnalisée. C'est un potentiel d'amélioration de la qualité de vie qui est juste énorme.
Et à côté du logiciel, il y a aussi le matériel, ce dispositif de filtration sanguine du docteur Youssef El Azozi.
Ah oui, le fait que l'OMP, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le considère comme une possible première mondiale dans son rapport PCT, c'est pas rien.
Ça montre que ça bouge, côté innovation marocain.
Ça montre que l'écosystème mûrit, clairement. Après, bien sûr, il reste les étapes cruciales. Essais cliniques, régulation, le chemin est encore long. Mais c'est un signal fort.
Sortons un peu de la santé. L'IA, elle est aussi au cœur de la stratégie Maroc Digital et IA 2030. Et là, il y a un lien assez étonnant qui est fait avec la diplomatie, le développement régional, l'initiative Atlantique Royale pour le Sahel.
Oui, c'est une vision géostratégique, on peut dire. L'idée, c'est de créer un corridor numérique.
Fibre optique, data center souverain, cloud régional.
En parallèle du corridor logistique maritime.
Exactement. Pour les pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, et l'IA, là-dedans, elle servirait de levier pour le développement. Agriculture de précision, santé à distance, gestion de l'eau, climat, logistique. C'est penser la tech comme un outil de coopération régionale.
Intéressant. Mais qui dit déploiement massif de l'IA, dit aussi encadrement, non ? Comment le Maroc prévoit de gérer ça?
Alors, le magazine parle du développement d'une plateforme nationale d'IA responsable et aussi d'un framework pour un grand modèle de langage, un LLM national.
Un ChatGPT marocain, en quelque sorte?
Un peu l'idée, oui, mais entraîné spécifiquement. C'est un projet mené par le ministère de la Transition numérique et la CNDP, l'autorité de protection des données, et les mots d'ordre sont clairs.
C'est-à-dire?
Protection des données, respect des lois, prise en compte de l'arabe, de la masie, du français, souveraineté numérique, traçabilité des décisions de l'IA, lutte contre les biais et, essentiel, garder le contrôle humain. C'est la base pour que les gens aient confiance.
La confiance, un mot qui risque d'être mis à rude épreuve dans un autre domaine où l'IA débarque en force, l'influence digitale. L'analyse de Hicham Al-Adnani est assez percutante.
Oui, il pointe plusieurs technologies disruptives. L'IA générative, qui peut créer du contenu presque à l'infini. Les avatars virtuels, qui pourraient remplacer les influenceurs humains.
Comme l'île Miquela à l'étranger. Il imagine des avatars marocains.
C'est ça. Et puis, le gros risque, les clones numériques, les deepfakes, ces faux hyper réalistes audio ou vidéo, des outils potentiels de désinformation massive.
Et pour le Maroc, il voit quoi comme conséquence?
C'est un tableau en demi-teinte. D'un côté, des opportunités. Ça pourrait démocratiser la création de contenu, donner plus de visibilité à l'international.
Et de l'autre?
De l'autre, des menaces bien réelles. Dévalorisation du travail créatif humain, précarité accrue pour les vrais influenceurs. Et surtout, le risque de manipulation de l'opinion, à des fins politiques ou sociales. Ça soulève direct la question de la dépendance aux GAFAM et l'urgence d'avoir une régulation nationale. Une question de souveraineté numérique, encore une fois.
Et cette vague tech, on la voit aussi dans des choses plus terre-à-terre, non? Le magazine mentionne un IA café à Casablanca.
Oui, pour démocratiser le sujet, le rendre accessible. Et puis le déploiement de la 5G, qui commence par les villes de la Cannes 2025. D'ailleurs, apparemment, 60% des smartphones sont déjà compatibles.
Ça montre que le terrain est prêt, d'une certaine manière.
Voilà. Mais le magazine alerte aussi sur les risques, comme ce malware Android, Raton. La médaille a toujours son revers.
Passons au deuxième gros morceau de ce numéro, le dossier spécial sur l'influence digitale marocaine. Les éditos donnent le ton, hein, c'est plus qu'une mode, c'est un champ de bataille.
Carrément, économique, culturel, politique même. Les influenceurs et le dossier insistent sur le rôle majeur des femmes.
Oui, c'est frappant.
Façonnent les imaginaires, les modes de consommation, animent les débats. Et participent au soft power culturel du Maroc, qu'ils en soient conscients ou non. La cible numéro un, c'est clair, la génération Z. Celle qui est née avec un smartphone.
Et les questions posées sont assez directes. Quelles valeurs sont véhiculées? Où s'arrête l'authenticité? Où commence la pub déguisée? Y a-t-il un risque d'instrumentalisation? L'édito fait même un lien avec Gen Z 212.
Oui, le dossier creuse vraiment en profondeur. D'abord la question du genre. Beaucoup de femmes dans la mode, la beauté. Les hommes plus dans le sport, la tech. Ça interroge les stéréotypes, bien sûr, mais aussi les stratégies des marques, les algos, et surtout la pression énorme sur les femmes, le sexisme ambiant.
Il y a aussi la comparaison Instagram versus TikTok. C'est intéressant.
Très. Insta, c'est la vitrine, le côté chic, la qualité visuelle, les marques de luxe. TikTok, c'est plus populaire, brut, spontané. La viralité avant tout. Pour une audience plus jeune, plus large, et les influenceuses, elles naviguent entre les deux.
Le dossier déconstruit aussi un peu le mythe des influenceuses millionnaires, non?
Oui, il y a une fascination, c'est sûr, mais la réalité, c'est que si certains gagnent très bien leur vie, c'est rare. Il y a beaucoup d'opacité financière, on se souvient de l'affaire d'évasion fiscale en 2022, une grosse partie reste dans l'informel. D'ailleurs, un régime fiscal spécifique est prévu pour 2025 pour essayer de structurer tout ça.
Un point qui m'a particulièrement interpellé, c'est l'impact psychologique, surtout sur les jeunes, ces filtres omniprésents.
Ah oui, les standards de beauté irréalistes, peau parfaite, corps idéalisé. Les conséquences sont graves, hein, complexes, chirurgie esthétique, troubles alimentaires. L'article parle même de fatigue de l'image. Heureusement, il y a une petite vague body positive qui émerge, mais elle est encore discrète.
Et le sponsoring caché, c'est un autre gros sujet.
Fondamentale, le manque de transparence est flagrant au Maroc. Le fameux hashtag ad ou hashtag sponsorisé, on le voit très peu. Du coup, la confiance s'érode. Et le risque est réel quand on fait la promo de produits un peu limites, voire dangereux.
Le dossier va loin. Il aborde aussi les conseils perso, parfois douteux, les mariages d'influenceurs hyper médiatisés et sponsorisés.
Oui, ces mariages qui créent une pression sociale autour du luxe, de l'apparence. Et puis, la face sombre, le harcèlement en ligne, particulièrement violent envers les femmes, sexiste, attaque sur le physique, la vie privée, les failles légales, la lenteur des plateformes, tout ça est pointé du doigt.
Et le rôle des agences dans tout ça?
Ambivalent. Elles sont censées professionnaliser, mais certaines pratiques sont dénoncées. Commission opaque, favoritisme, il y a clairement un besoin de régulation. Et enfin, l'engagement social, sincère ou juste du philanthropie marketing. Le public est de plus en plus vigilant là-dessus.
Finalement, le dossier pose une question de fond. Comment la culture marocaine dialogue ou se confronte avec ces codes mondialisés de l'influence?
C'est une tension constante. D'un côté, on voit une hybridation. Le caftan revisité sur Insta, les recettes radis qui cartonnaient sur TikTok. C'est intéressant. Mais de l'autre, il y a le risque d'uniformisation, ce que l'article appelle le « global cool ».
Une standardisation, quoi.
Exactement. Mais face à ça, il y a des résistances. La valorisation du Darija, de l'Amazir, la recherche d'histoires plus authentiques, plus locales. Le digital, c'est aussi un terrain où se joue le soft power culturel marocain.
Changeons de thème. Troisième grand axe, les dynamiques sociales, économiques, politiques. Là aussi, le magazine met en lumière pas mal de points de friction.
Oui, par exemple, cette contradiction souvent relevée entre l'état de certains hôpitaux publics et les sommes énormes prévues pour le Mondial 2030. C'est un débat sur les priorités.
Un débat récurrent.
Tout à fait. Autre point d'alerte, la situation de l'enfance. Près d'un tiers de la population est mineure, mais un enfant sur trois vivrait en situation précaire. C'est énorme.
Il y a aussi des critiques plus ciblées, comme sur l'organisation autour du nouveau stade de Rabat, après un match récent.
Oui, accès, évacuation, parking, des couacs qui font dire qu'il faut mieux anticiper, surtout avec la CAN 2025 qui approche à grands pas.
Et puis, il y a des réflexions plus existentielles, on va dire. L'édito de Hafid Fassifieri sur la double peur, pollution chimique versus microbes.
C'est ça, la peur invisible des produits chimiques du quotidien et la peur ancestrale des microbes, une sorte de dilemme moderne. Sans oublier l'alerte de l'OMS sur la santé mentale, une crise mondiale avec de fortes inégalités nord-sud.
Côté économie, par contre, ça allait plutôt dynamique, non ? Anissa, le marché automobile par exemple.
Oui, les chiffres de septembre 2025 et sur les 9 premiers mois montrent une très forte croissance. Le Maroc est aussi troisième sur le marché régional des camions.
D'autres indicateurs notables ?
On note 1 milliard de dirhams annoncés pour moderniser les marchés ruraux, une hausse spectaculaire des importations de médicaments russes, plus 510% sur 5 mois, ça interroge sur les flux commerciaux, et la confirmation que 67 produits dérivés du cannabis médical ou industriel sont maintenant commercialisables. Le Maroc est pionnier en Afrique sur cette régulation.
Le développement durable semble aussi être un axe fort.
Oui, le Maroc veut se positionner en leader africain de la durabilité minière, avec un cadre SEG, environnemental, social, gouvernance. Plus globalement, l'Afrique demande plus de moyens pour l'adaptation climatique et des actions concrètes sont listées.
Comme quoi, par exemple ?
La lutte contre la cochenille du cactus avec des variétés résistantes, une centrale solaire flottante inaugurée à Tanger, un repos biologique pour la pêche aux poulpes, des recherches sur les carburants d'aviation durables ou encore un partenariat pour des bus écolos pour la CAN. C'est très varié.
Et sur la scène politique, diplomatique, sécurité, Gélier ?
Alors, on a la reconnaissance par le Paraguay de la souveraineté marocaine sur le Sahara, avec projet d'ouverture de consulat. En politique intérieure, l'Istiklal fait des propositions pour réformer le code électoral. Et puis, il y a eu ce geste très commenté.
Lequel ?
Le baiser sur la tête d'Abdelatif Ouabi, ministre de la Justice, à Abdelila Benkirane, l'ancien chef du gouvernement. Un geste interprété comme un signe d'apaisement ou une habile comme politique. Ça a fait jaser, en tout cas.
Côté défense et sécurité,
le magazine évoque un intérêt potentiel pour des sous-marins français Scorpène. Et puis, une initiative importante de la NARSA, l'Agence de sécurité routière, une grande étude sur le port de la ceinture, du casque et sur la vitesse, pour essayer de réduire les 3600 morts par an sur les routes. C'est un enjeu majeur.
Et on finit ce tour d'horizon avec la culture, la créativité, l'art de vivre. Là aussi des débats, notamment sur le rôle d'un ministère de la culture.
Oui, un édito de Hafid Fassifiri pose la question un peu cash, à quoi ça sert encore ? C'est une critique du système de subvention. L'auteur appelle à une vraie industrie culturelle, édition, théâtre, cinéma, qui soit autonome. Il dénonce le financement de la médiocrité et insiste sur le rôle de la culture pour transmettre des valeurs.
Une critique assez forte, mais la scène culturelle elle-même, elle a l'air bien vivante, non ?
Ah oui, tout à fait. Le magazine relaie plein de choses positives, le succès du documentaire Out of School de Hind Bensari à Venise, une opération marketing sympa d'EasyJet et de l'ONMT à Lyon avec un palais marocain, le Maroc dans le top 5 des destinations post-été de Forbes et du Figaro.
Il y a aussi des expos, des séries.
Oui, une expo sur le Maroc des années 30 à Hawaï. La nouvelle série Fatouma d'Idriss Rouh, attendue pour Ramadan. Le succès du pavillon marocain au village de la gastronomie à Paris, et même la reprise annoncée d'une pièce culte de Mohamed El-Djem, Djar ou Majrour.
Et la musique aussi, ça bouge aussi ?
Apparemment oui. Le festival Moga, off, était gratuit à Essaouira. Tant de jazz est reporté, mais un nouveau festival, Aïta de Bladi, arrive à Casa, mélangeant tradition Aïta et pop. Des artistes marocains participent aussi à des concerts engagés à l'étranger, pour la Palestine à Londres ou pour le dialogue interculturel à Washington, comme Nabil Amman et Tariq Hilal.
Littérature, lifestyle, c'est très éclectique comme magazine.
Oui, on trouve un peu de tout. Un livre d'Adnan Benchakroun sur l'ennui vu comme indispensable et un de ses poèmes, Les couleurs modes de l'automne, un rituel de bain japonais au shiso. Le phénomène des lunchbox dans les écoles marocaines, entre besoins pratiques et compétition sociale.
Des astuces cuisine même.
Oui, le débat sur l'huile dans l'eau des pâtes, apparemment inutile. Et le conseil de ne pas mettre le café au frigo. Et puis des anecdotes un peu insolites, comme cet ingénieur qui automatisait tout, même ses excuses à sa femme, ou la possible découverte de traces de vie sur Mars.
Ça montre bien comment la tech s'infiltre partout. Et le sport, pour finir.
Oui, l'édito de Fassifiri regrette le manque de soutien pour Hakimi au Ballon d'Or, où il finit sixième. On apprend que Puma lutte contre la contrefaçon des maillots de foot avant la CAN. Et des paroles d'encouragement, l'Allemand Effenberg qui cite le Maroc en exemple, et Karim El Amadi qui rêve d'une victoire à domicile pour la CAN 2025.
Quel tour d'horizon complet. Franchement, si on essaye de résumer, ce numéro de l'OGI IMAG dessine un Maroc, oui, bouillonnant, traversé par l'IA, aux prises avec l'influence digitale, confronté à des défis socio-économiques bien tangibles, mais avec une culture et une vitalité bien présentes.
C'est une bonne synthèse, je trouve. Le message clé, c'est peut-être ça. Un pays en pleine mutation qui essaie de trouver sa voie entre l'adoption des tendances mondiales, qu'elles soient technologiques ou culturelles, et le besoin de préserver ou de réinventer son identité. Tout ça en répondant aux attentes très concrètes de sa population, santé, éducation, emploi, environnement.
Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour conclure cette exploration. Face à cette intégration si rapide des technologies, face à la puissance de l'influence digitale, comment le Maroc peut-il vraiment tracer son propre chemin ?
C'est toute la question, oui. Comment trouver cet équilibre, forcément instable, entre s'ouvrir au monde et rester soi-même, entre l'innovation à tout crin et la nécessité de n'oublier personne en route, entre les grands projets d'infrastructure et les besoins de base ? Quelle boussole, finalement, pour naviguer dans ces transformations si profondes et parfois si contradictoires ?
Une question ouverte qui dit bien toute la complexité des enjeux. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse.